Merci, bonjour à tous, auditrices et auditeurs de Radio Okapi. Merci aux journalistes de Kinshasa et Goma d'être avec nous ce matin pour cette dernière conférence de presse de l'année. À mes côtés, ici à Kinshasa, pour animer cette conférence, Yvon Edoumou, qui représente l'équipe de pays des Nations Unies, et depuis Goma, le porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Serge Hague. J'ai aussi le plaisir d'accueillir un invité, Jean-Philippe Chosy, chef de mission de l'Organisation internationale pour l'immigration, qui reviendra sur la Journée internationale des migrants qui a été célébrée ce lundi 18 décembre. Pour ouvrir cette conférence de presse, je souhaiterais revenir sur la visite effectuée entre vendredi dernier et hier mardi en République démocratique du Congo par le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Une visite essentiellement consacrée à l'attaque contre la base de la MONUSCO de Semouliki, avec des cérémonies en hommage aux 14 casques bleus tués, tout d'abord en Tanzanie, puis à Goma. Accompagné du conseiller militaire chargé des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix a également rendu visite aux casques bleus hospitalisés à Goma et à Kinshasa. Hier, il se trouvait dans le territoire de Beni, à la base de Semouliki, attaqué donc le 7 décembre dernier, où il a rencontré le personnel de la force afin de mieux comprendre les événements récents. Il a également visité les installations de la MONUSCO à Mavivi ainsi qu'une base d'opération à Kamango. Durant son séjour congolais, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des opérations de maintien de la paix, a été en outre reçu par les hautes autorités congolaises avec lesquelles il a évoqué la lutte contre les groupes armés et les futures opérations électorales. Jean-Pierre Lacroix a rappelé que l'attaque de Semouliki constituait un crime de guerre et que les Nations Unies feraient tout pour que ceux qui l'ont perpétré soient traduits en justice. Il a aussi déclaré que le meilleur hommage que les Nations Unies pouvaient rendre aux casques bleus tués à Semouliki était de travailler ensemble pour rétablir la paix en République démocratique du Congo. Je vous rappelle le lourd bilan de cette attaque meurtrière contre des soldats de la paix, 14 morts et 44 blessés. Passons maintenant à l'autre volet du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo, soit l'accompagnement de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral en cours. La police de la MONUSCO a organisé la semaine dernière un séminaire de renforcement des capacités sur la gestion sécuritaire des élections, un séminaire auquel ont participé 100 officiers supérieurs de la police nationale congolaise. Plusieurs modules ont été dispensés, aussi bien sur le rôle de la police lors des opérations électorales que sur les droits de l'homme et l'usage graduel de la force. Il s'agissait de doter les inspecteurs de la PNC des outils essentiels pour assurer efficacement leur fonction de contrôle des opérations de police dans cette période sensible où les droits de l'homme sont susceptibles d'être violés lors des manifestations politiques par les forces de sécurité. Le président de la CENI et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ont pris part à ce séminaire. Je vais maintenant passer la parole au colonel Hague, qui se trouve à Goma, afin qu'il nous fasse le point sur la situation sécuritaire.
Merci, madame. Bonjour à tous. Les principales informations de la semaine concernent la situation sécuritaire dans le territoire de Beni et dans la province du Nord Kivu, où les dernières attaques par les groupes armés ont conduit la force de la MONUSCO à d'importants déploiements dans le but de protéger les civils. La force de la MONUSCO continue de remplir son mandat de protection des populations dans les zones en proie à la violence et intensifie sa présence pour répondre aux besoins par la mise en œuvre d'un dispositif sécuritaire fondé sur la flexibilité et la mobilité des troupes. À ce titre, suite à l'attaque perpétrée par les présumés éléments les forces démocratiques alliées, ADF, contre la base de la MONUSCO à Semouliki, le jeudi 7 décembre 2017, la force a renforcé son dispositif en déployant des unités de forces spéciales dans le secteur de Semouliki-Kamango. Dans cette zone, la force poursuit également les actions visant au renforcement défensif de ses bases, la conduite d'opérations de recherche d'informations et de renseignements, de contrôle et de sécurisation des secteurs à travers de nombreuses patrouilles, de jour comme de nuit, afin de protéger et de rassurer les populations dans la région. En tout état de cause, la force de la MONUSCO continue d'opérationnaliser son concept de protection par projection en menant des actions destinées à rassurer la population locale et à décourager les activités négatives perpétrées dans cette région. L'attaque contre la base des casques bleus à Simuliki, dans le Nord Kivu, constitue un crime de guerre et ses auteurs, dont l'arrestation interviendra un jour, seront jugés en tant que criminel de guerre. Par ailleurs, dans le but de sécuriser les zones sensibles et les principaux axes en cette période de fin d'année, la force a lancé des opérations conjointes avec les FRDC dans les territoires de Masisi et de Rutshuru depuis le 18 décembre 2017. Des troupes supplémentaires et des déploiements temporaires ont été mis en place à Mutongo à cet effet. Enfin, au chapitre de reddition, 23 éléments de différents groupes armés se sont rendus ces trois derniers jours avec armes et munitions aux bases de la MONUSCO à Walikale, Rumangabo, Tongo et Butembo. Ils proviennent de NDC, Tcheka, FDLR et Maïmaï Nduma. Je vous remercie.
Merci, colonel. Retour à Kinshasa, où nous retrouvons Yvon Edoumou, qui va nous présenter les actualités de l'équipe de pays des Nations Unies en République démocratique du Congo.
Alors, merci, Florence. Bonjour à tous, chers amis auditeurs et journalistes ici à Kinshasa et à Goma. Avec plus de 50 000 cas de choléra et plus de 1 000 personnes décédées depuis janvier, 2017 rentrera dans les annales de l'histoire comme l'année durant laquelle la République démocratique du Congo a connu sa pire épidémie de choléra de ces 30 dernières années. Le choléra est devenu au fil des années un défi majeur de santé publique, notamment dans l'est du pays, tout en notant que des régions de l'ouest telles que la province du Congo central et la capitale Kinshasa connaissent aussi des flambées de la maladie. Les chiffres de cette année surpassent de loin ceux des 10 années précédentes. De 2006 à 2016, le pays a enregistré en moyenne 27 000 cas et 600 décès. La faible desserte en eau potable, le faible niveau d'assainissement dans les grandes villes comme dans les villages, des habitudes néfastes en matière d'hygiène sont autant de facteurs qui ont rendu cette maladie endémique en RDC. L'inquiétante évolution de la maladie indique que les acteurs humanitaires et de développement et l'État congolais doivent repenser leur approche à cette maladie. Chaque année, des acteurs comme l'UNICEF, l'OMS et de nombreuses ONG humanitaires nationales et internationales apportent une réponse d'urgence, donc ponctuelle, à la maladie. Cependant, comme nous le disons ici chaque semaine, l'aide humanitaire d'urgence, que ce soit pour le choléra, la malnutrition, l'éducation, est un palliatif. Certes, elle permet de sauver des malades, mais elle n'est pas la solution à long terme et la RDC a besoin d'une solution à long terme pour lutter contre le choléra. Plus de 700 000 enfants se sont déplacés suite au conflit interethnique dans les provinces du Tanganyika et du Sud Kivu au cours de ces derniers mois. Selon UNICEF qui avance ce chiffre, des milliers d'enfants ont trouvé refuge dans des camps de fortune, tandis que des milliers d'autres vivent au sein de familles d'accueil. Ces enfants font face à des situations précaires et dangereuses pour leur survie. Entre autres, ils n'ont souvent pas accès aux services de base tels que les soins de santé ni l'éducation. UNICEF estime qu'au Tanganyika, plus de 70 000 enfants ont dû abandonner l'école et dans le Sud Kivu, ce sont 604 écoles dans les territoires de Fizi et d'Uvira qui ont été attaquées ou occupées durant ces derniers mois, privant ainsi près de 93 000 enfants d'éducation. L'impact de la violence sur la santé des enfants est dramatique et la situation risque de se détériorer sans une réponse humanitaire urgente et adéquate. Avec ses partenaires, UNICEF apporte une assistance humanitaire tout en poursuivant ses activités de développement structurel, les deux étant liés. Cependant, la réponse reste insuffisante en raison notamment des moyens financiers limités. Passons à l'actualité sur la coopération gouvernement-agence des Nations Unies pour vous signaler que le gouvernement congolais et la FAO ont décidé d'investir dans la promotion de la culture du bambou. C'est dans ce cadre que les ministères chargés de l'agriculture, de l'environnement et du développement durable et la FAO organisent des travaux en vue de sensibiliser différents partenaires et acteurs sur la culture de cette plante dans l'optique du développement d'une économie verte et inclusive. Au terme d'une journée de travaux qui aura lieu demain jeudi 21 décembre, un document de stratégie nationale sur le bambou sera élaboré et une feuille de route pour l'année 2018 sera mise en œuvre. Par ailleurs, l'UNESCO et l'Union européenne organisent depuis le 15 décembre et ce jusqu'au 23 un séminaire de formation sur l'aménagement forestier durable en RDC. Ce séminaire connaît la participation des agents de l'administration forestière et les membres de la société civile issus des diverses filières de TU de 12 pays africains, dont la République du Congo. Durant ces 8 jours, la formation traitera, entre autres, des aspects légaux et de traçabilité dans l'aménagement forestier, les dimensions sociales et les techniques de l'exploitation comme outils d'une bonne gestion forestière. Et pour terminer, un mot sur la justice internationale. Le 15 décembre 2017, donc cette année, la semaine passée, la Chambre de première instance 2 de la Cour pénale internationale a rendu une décision fixant à 10 millions de dollars américains le montant des réparations collectives auxquelles M. Thomas Lubanga Dilo est tenu. Cette décision complète ainsi l'ordonnance de réparation du 3 mars 2015 dans l'affaire Le procureur contre Thomas Lubanga Dilo qui avait octroyé des réparations collectives aux victimes des crimes de guerre commis par M. Lubanga, à savoir la conscription, l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans le groupe armé UPC-FPLC et le fait d'avoir participé activement à ces hostilités. Merci.
Merci Yvon. En République démocratique du Congo, comme partout dans le monde, la Journée internationale des migrants a été célébrée lundi dernier, ce qui a constitué l'occasion de reconnaître les contributions qu'apportent les 258 millions de migrants par le monde et d'en célébrer la vitalité. Jean-Philippe Chosy, chef de mission de l'Organisation internationale pour l'immigration RDC, qui se trouve à mes côtés, va revenir sur le sens de cette journée, à la fois au niveau mondial et en RDC. Jean-Philippe, bonjour, c'est à vous.
Merci Florence Marchal. Donc, en effet, à l'occasion de la journée internationale des migrants qui a été célébrée ce lundi 18 décembre, l'OIM et les Nations Unies ont à nouveau exhorté les États à davantage de coopération internationale pour rendre les migrations plus sûres, de sorte que les bénéfices de cette migration soient plus largement répartis et que les droits fondamentaux de toutes les personnes concernées, de tous ces migrants, soient protégés. Le secrétaire général l'a dit, les preuves ne manquent pas pour montrer que les migrants produisent des avantages économiques, sociaux et culturels pour toutes les sociétés. Ceci dit, c'est l'occasion pour nous, que ce soit à l'OIM ou aux Nations Unies, de reconnaître les contributions qu'apportent ces 258 millions de migrants internationaux de par le monde et pour en célébrer leur vitalité. Ceci dit, et la réalité aujourd'hui, c'est que l'hostilité envers les migrants ne fait hélas que croître de par le monde. Nous l'avons vu au cours de ces dernières années, il est plus que jamais urgent de prendre des mesures pour faire en sorte que cette solidarité envers les migrants puisse s'exprimer pleinement. Pour ce qui concerne l'Organisation internationale pour l'immigration, notre directeur général, M. William Lacy-Swing, a pris la parole pour publier un communiqué qui souligne qu'en fait, à cette époque, ou une époque, à un moment où une élite privilégiée considère la mobilité mondiale comme un droit presque de naissance, on a malheureusement de trop nombreuses autres personnes qui sont prises au piège dans des situations économiques dramatiques, dans des conflits et qui ne se voient pas accorder ce privilège et ce droit. Monsieur Swing a dit, des centaines de millions de personnes qui ne sont pas compétitives sur le marché de l'emploi de plus en plus mondialisé doivent regarder de l'extérieur un monde dont elles ne peuvent que rêver, fin de citation. Elles font face de plus grandes difficultés et inégalités des revenus et n'ont aucune chance d'obtenir un visa ou un permis de travail. Pour le directeur général de l'OIM, il n'est pas étonnant de voir d'immenses vagues de jeunes migrants pleins d'espoir embarqués à bord de bateaux qui prennent l'eau. Pour information, pour rappel, cette année et depuis 2014, ce sont quelques 25 000 personnes qui ont été portées disparues ou qui sont mortes dans leur trajet migratoire. Le directeur général souligne également que cet état de fait ne fait que favoriser les réseaux de passeurs, de trafiquants et d'esclavagistes modernes qui se lèvent et qui se livrent à un commerce en toute impunité. Il souligne que ces tromperies restent impunies alors que de nombreux géants des médias sociaux partent à la conquête de nouveaux marchés dans les pays du Sud. C'est donc un appel, encore une fois, à ce que cette migration soit gérée de manière sûre pour le bénéfice de tous et de toutes. Merci.